L'Europe tente de juguler une épidémie de grippe aviaire qui touche une trentaine de pays. Plus de 250 foyers ont déjà été détectés dans des élevages en France. Au moins 1 million de poulets, de dindes et de canards ont déjà été abattus. Et aux Pays-Bas, ce sont 200 000 poussins qui ont été tués hier dans des fermes infectées. Bonjour Jeanne Brugère-Picou.
Bonjour madame.
Vous êtes professeure honoraire de l'École nationale vétérinaire d'Alfort et membre de l'Académie nationale de médecine. L'abattage, c'est la seule solution contre cette maladie ?
Malheureusement oui, parce qu'on l'appelle même la peste aviaire officiellement chez les vétérinaires, parce que c'est la maladie la plus contagieuse que l'on connaisse.
Et c'est une vraie menace aujourd'hui dans le monde ? Celle-ci est particulièrement virulente par rapport aux années précédentes ?
Non, c'est toujours très virulent, mais le problème est que maintenant qu'on cherche, on trouve, puis surtout, on a toujours ces risques liés aux animaux sauvages. Donc en fait, on savait que ça allait nous tomber dessus dans la mesure où tout le pays voisin était touché par ce H5N1.
Mais est-ce qu'il y a un risque de transmission de cette peste aviaire à l'homme ?
Alors ce risque n'a jamais été franchement démontré, puisque on a eu des cas en Asie, mais n'oubliez pas que ce n'a jamais eu de contamination homme-homme. C'est-à-dire que le virus ne s'est jamais adapté à l'espèce humaine, mais il faut savoir que pour avoir une réaction au niveau humain, il faut que le virus atteigne les alvéoles pulmonaires et pas les premières voies respiratoires. Ça peut vous expliquer le cas anglais dont on a parlé il y a peu de temps, parce que, vous savez, il suffit de respirer un petit peu jusqu'aux alvéoles, on a une sérologie positive, mais les gens n'ont pas été malades. D'accord. La personne n'est pas malade.
Donc une zoonose devient vraiment dangereuse quand elle finit par devenir spécifiquement humaine, c'est ça, quand elle se transmet d'homme à homme.
Voilà, il faudrait qu'elle s'adapte à l'espèce humaine. Pour le moment, jamais une peste aviaire ne s'est adaptée à l'espèce humaine, alors que c'est une vraie catastrophe, la plus grosse catastrophe qu'on peut avoir dans les élevages avicoles.
Et en revanche, le Covid hein, qu'on connaît depuis 2 ans, lui, s'est adapté.
Ah bah c'est plutôt finalement l'homme qui contamine l'animal là.
Mais on n'a toujours pas de certitude sur l'origine du Covid.
Alors on sait quand même que la souris, la chauve-souris qui sévit surtout dans le triangle d'or, c'est-à-dire au sud de la Chine, vers le Cambodge, la Thaïlande et le Laos. En fait, on sait qu'il y a certainement un réservoir au niveau de la chauve-souris, mais on ne l'a jamais trouvé ce virus.
Comment ça se fait ? C'est vraiment difficile de trouver ?
Alors quand on cherche, on trouve des SRAS-relatés virus, c'est-à-dire des virus qui ressemblent, mais qui montrent, quand on cherche, on trouve. Et n'oublions pas une chose, depuis le SRAS de 2003, les Chinois écrivaient « il y a des SRAS-relatés virus et un jour on aura une nouvelle pandémie ». Ils l'écrivaient en 2015.
Mais donc ce serait passé directement de la chauve-souris si c'est avéré à l'homme, ou il y a un chaînon manquant, alors, quelque chose d'intermédiaire ?
Est-ce qu'on a eu des animaux hôtes intermédiaires ? On ne sait pas, on a soupçonné le pangolin, mais ce n'est pas évident. Même à un moment, ils ont parlé de serpents. Non, on ne sait pas du tout quels sont les hôtes intermédiaires. Par contre, expérimentalement, on connaît les animaux sensibles, et même maintenant, des animaux infectés naturellement. Et depuis le mois de janvier, on a trouvé de plus en plus d'animaux infectés naturellement dans la faune sauvage, les cervidés américains, un léopard en Inde, des mustélidés en France.
Et ça vous inquiète ou c'est normal ?
Ah si, c'est inquiétant parce que si vous voulez, le problème du risque de réservoir animal, on a des incertitudes. Mais n'oubliez pas que l'OMS a alerté le 18 janvier dernier en disant qu'il faut surveiller ce risque de réservoir animal. Parce que quand on n'aura plus de Covid chez l'homme, parce qu'on va quand même évoluer vraisemblablement vers un système de grippe saisonnière peut-être, il faut l'espérer, on a toujours ce risque de variant qui pourrait arriver parce que ce virus circule encore chez l'animal, mais on n'en sait rien.
Et c'est pour ça que Hong Kong a décidé d'abattre 2000 hamsters, parce que visiblement certains d'entre eux ont été testés positifs. C'est des cas qui sont apparus dans une animalerie, donc des animaux destinés à être adoptés, entre guillemets, à être des animaux domestiques. Les animaux domestiques représentent un danger ?
Alors, le cas de Hong Kong est particulier parce que les animaux domestiques, le chien, le chat, qui sont contaminés par leur maître, c'est sporadique, ils sont peu malades, le risque d'une transmission en retour est très très faible et pas démontré du tout. Par contre, le hamster, c'est un animal très sensible. Là, vous connaissez les Chinois, c'est zéro Covid, ils ont un animalier qui est positif, ils cherchent d'où ça vient, et ils ont trouvé l'animalerie où il y avait des hamsters, ils testent les hamsters, ils en ont trouvé qui étaient positifs, ils tous les hamsters.
Mais par contre, donc pour les animaux domestiques, il y a déjà des cas qui ont été identifiés et c'est l'homme qu'il l'a transmis à son animal, c'est ça ?
Ah, tout à fait. Quand on fait des enquêtes sur les animaux qui sont positifs, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un animal positif quand le propriétaire a présenté la Covid.
Jeanne Brugère-Picou, ce phénomène, ça n'a rien de nouveau. Hein. On est confronté, l'humain ou l'humanité est confrontée à des zoonoses depuis des milliers d'années, hein, depuis en fait qu'on vit à côté d'animaux. Est-ce que vous constatez tout de même que ça s'accélère ou pas du tout ?
Pas du tout, c'est peut-être parce que là il y a une médiatisation de la Covid, comme il y en a eu une avec la vache folle ou la peste aviaire, mais il faut savoir que 75% des maladies sont des zoonoses communes donc à l'homme et l'animal. Ce qui m'inquiète le plus, voyez-vous, c'est par exemple les réservoirs animaux de tiques. Les tiques sont quand même très dangereuses, des maladies vectorielles. Plus on cherche, plus on trouve. Et puis, quelquefois, donc, les modifications dans la biodiversité font que on a des animaux sauvages qui sont des réservoirs à tiques. Donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait des modifications dans la biodiversité peuvent amener finalement l'homme à être plus sensible, plus à risque, plus exposé à certaines maladies.
Ces modifications dans la biodiversité, elles sont dues à quoi ? C'est quoi ? C'est la déforestation ? C'est des élevages industriels ? C'est quoi en fait ?
Alors, les élevages industriels, non. D'ailleurs, la Covid ne touche pas les animaux d'élevage, que ce soit les porcs, les bovins ou les volailles. Donc, il n'y a pas de sensibilité démontrée qui fait qu'il y a un risque. Mais par contre, c'est vrai que quand on a des animaux sauvages qui sont en surpopulation, comme les cervidés de Virginie, les cerfs de Virginie, quand on a en fait un virus qui circule, il y a un risque pour l'homme qui est potentiel.
Est-ce que c'est un sujet porteur ? Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches actuellement sur les zoonoses ?
Il y a toujours eu des recherches parce que c'est un risque pour l'homme, si vous voulez. Mais là, c'est là où il faut se rendre compte que les vétérinaires sont nécessaires. Parce que finalement, les vétérinaires connaissent très bien ces maladies. Et il y avait, si vous voulez, un cloisonnement entre les médecins et les vétérinaires. Plus ça va, plus on se rend compte qu'on a besoin des vétérinaires qui connaissent mieux certaines maladies que parce que nous avons plusieurs espèces animales en cause.
Alors comment il faudrait pour décloisonner justement ?
Écoutez, ma chance, c'est d'être à l'Académie de médecine et d'être dans la cellule Covid qui montre que quand même, les médecins reconnaissent que les vétérinaires sont essentiels pour cela.
Merci beaucoup Jeanne Brugère-Picou, donc vétérinaire, membre de l'Académie nationale de médecine et professeure honoraire de l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Vous étiez l'invité du 5-7.